À plus d'un titre, deuxième partie. Bonjour à tous. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Marc Girard. Bonjour.
Bonjour.
Marc Girard, vous êtes écrivain, psychanalyste, et vous publiez aux éditions Imago les Contes de Grimm, lecture psychanalytique. Il s'agit de la deuxième édition, revue et corrigée, donc d'un ouvrage paru en 1990, qui est augmenté ici d'une importante préface, où vous posez notamment la question de savoir si les contes de Grimm ont encore un intérêt pour notre société, et où vous réglez quelques comptes avec la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, l'ouvrage célèbre de Bruno Bettelheim. On y reviendra sur ces deux aspects d'ailleurs, parce que c'est intéressant ce que vous dites aussi sur justement l'importance de la lecture de ces contes aujourd'hui encore, même à l'époque de Walt Disney et de la télévision. C'est donc, Marc Girard, une lecture renouvelée, psychanalytique, mais aussi philologique. Vous rappelez au passage que cette dimension était présente à l'esprit des frères Grimm, lexicographes et auteurs d'un dictionnaire auquel vous vous référez. Une lecture donc qui s'appuie également sur l'histoire des mentalités et des représentations collectives, ce qu'on appelle aussi l'horizon d'attente des lecteurs ou des auditeurs. Puisque les contes sont aussi faits pour être dits, pour être racontés, oui, entendus. Il est vrai d'ailleurs que ces approches que je viens de citer sont aussi des outils pour la psychanalyse. Mais ce qui distingue votre lecture, Marc Girard, c'est surtout une attention scrupuleuse à la cohérence du récit, parfois mise à mal par certaines lectures de cette nature. C'est ainsi que vous mettez en lumière et en valeur ce que vous appelez la magie des contes de Grimm, cette bizarre fascination qu'ils exercent sur nos âmes, comme vous dites, et puis également la mécanique de précision parfaitement réglée qu'il constitue. C'est d'ailleurs ce que vous reprochez en gros à Marc Girard, à Bruno Bettelheim, c'est d'être le plus souvent étranger ou de gommer cette magnifique ou d'ignorer cette magnifique cohérence.
Oui, c'est vrai que l'ennui des lectures de la critique psychanalytique, c'est que au fond, elle ressortit souvent à une entreprise d'interdisciplinarité molle. Vous avez dit que j'étais critique, mais je suis également scientifique. Donc, depuis que je suis petit, si j'ose dire, je réfléchis à l'interdisciplinarité. Et il manque indubitablement quelque chose dans la plupart des essais psychanalytiques consacrés à la critique. Et quant à la sensibilité au texte, je me permets de dire que ma formation de critique littéraire, je la dois quand même avoir étudié Flaubert, qui est quand même un oui, maître très rigoureux en matière d'attention au texte.
Vous avez également publié chez Imago, voilà, La Passion de Charles Bovary.
Voilà. Donc c'est vrai que ce qui était reproché à Bettelheim, c'était un peu du n'importe quoi, indépendamment des défauts personnels de l'homme qui ont été, je crois, révélés au moins après sa mort. Mon livre étant paru juste quasiment au moment où Bettelheim est mort, je ne veux pas dire que j'y ai contribué, mais il y a eu un hasard tout à fait curieux à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a appris sur Bettelheim des choses qu'on ne savait pas avant ou que peu de gens savaient et qui m'ont conforté un petit peu dans ma critique de son travail, notamment au niveau de l'imposture intellectuelle.
Oui, c'est-à-dire que ce que vous montrez, vous le citez d'ailleurs à plusieurs reprises tout au long du texte, et notamment, bon, l'ouvrage se présente en fait comme à chaque fois, vous analysez une quinzaine, douzaine de contes.
Oui.
On va en évoquer quelques-uns dans le détail, mais juste sur Bettelheim, vous lui reprochez en somme d'appliquer une grille de lecture
très rigide.
Alors en plus, et qu'en gros tous les contes reviennent, voilà, à avoir la même leçon, à donner la même leçon, à avoir
D'une part, il y a cette grille de lecture très rigide qui est déconnectée du texte aussi. Par exemple, on n'arrive jamais à savoir si Bettelheim nous parle des personnages du conte, s'il nous parle en termes de réception des lecteurs enfantins virtuels.
Il y a son corpus aussi, voilà, qui laisse à désirer, enfin je veux dire dans sa cohérence justement, puisque ça va des Mille et une nuits au conte de Perrault, de Grimm.
Et puis alors, on retrouve toujours finalement une idéologie extrêmement simpliste, c'est l'idéologie très américaine, je crois, de la maturation. Alors, prenons typiquement Blanche-Neige, par exemple. Blanche-Neige, à lui seul, dans la version des Grimm, j'entends, c'est un anti-Bettelheim, parce que que fait Blanche-Neige? Bon, ben, Blanche-Neige, elle fait bêtise sur bêtise. Hein. Oui. On lui apporte les nains ne cessent de la mettre en garde, fais attention, ta belle-mère veut ta peau, etc., etc. Et ce nonobstant, alors je ne sais plus dans quelle ordre elle commence par accepter le lacet que lui offre qui va l'étouffer. Alors les nains lui disent, la ranime, lui disent, mais c'est, on te l'avait bien dit. Alors ensuite, ça va être le peigne, et finalement, ça va être cette malheureuse pomme empoisonnée. Donc finalement, Blanche-Neige, c'est l'histoire d'une inéluctable régression. Oui. Et bon, on n'arrive pas du tout à retrouver les clés de Bettelheim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a mérité? Elle n'a rien mérité.
Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est le mérite, voilà. La question de la faute et du mérite.
Et alors finalement, qu'est-ce qui va débloquer l'histoire? Ben, c'est le regard d'un homme désirant. Alors, vous avez dit tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qui reste de ces contes aujourd'hui? C'est peut-être là l'origine de mon travail. Mm-hmm. C'est-à-dire que les spécialistes des contes ont beaucoup insisté sur... la situation historico-sociale à laquelle renvoyaient les contes, notamment les travaux agraires, la chasse, etc., plus l'idéologie des contes, c'est-à-dire, bon, on voit bien par exemple que dans énormément de contes, les gens crèvent de faim, les gens sont dans des conditions de travail absolument innommables, mais il n'empêche que cette société des contes, elle est morte aujourd'hui, et la seule chose qui reste pour l'époque moderne, c'est un autre besoin fondamental des êtres humains, qui est tout simplement le désir et l'amour. Et ces contes nous renvoient quand même une réflexion sur, une réflexion que je crois toujours valable pour aujourd'hui, sur qu'est-ce que c'est que le désir, pourquoi il est si difficile de s'aimer entre un homme et une femme. Alors voilà quelque chose qui là transcende le fait que la société de référence des contes n'existe plus et qu'elle est morte et enterrée.
Vous parlez aussi à ce sujet, Marc Girard, de la sincérité, de l'authenticité des contes qui permet justement de délivrer des messages qui ne sont pas toujours d'une grande clarté, mais en tout cas qui sont entendus, et notamment par les enfants.
Oui, de la sincérité des arts primitifs.
Aussi d'incantation. Voilà, ouais. 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 Ça, c'est effectivement des choses auxquelles on peut être sensible d'emblée. Alors, justement, à propos de Blanche-Neige, on peut commencer, vous rappeler qu'elle a... Il y a une autre chose que vous dites aussi, et qui s'illustre d'ailleurs très bien dans ce conte de Blanche-Neige, c'est le conte met en scène, c'est une thématique presque constante, sans tomber dans le travers de Bettelheim qui voit toujours la même leçon dans des contes extrêmement différents. On peut dire qu'il met en scène la violence ou l'incompétence des adultes.
Alors voilà justement le point numéro 2.
C'est en ça qu'ils sont subversifs aussi. Hein.
Le point numéro 2 de mon point numéro 1, c'est-à-dire... Pourquoi tant de mal à s'aimer? Eh bien, les contes de Grimm sont d'une lucidité étonnante sur la violence parentale et plus encore l'incompétence parentale, et finalement sur les séquelles de cette incompétence parentale dans le devenir amoureux de l'enfant. Oui. Alors là aussi,
violence voilà. Sur les enfants. Hein, bien sûr.
On vit dans. On essaye de repenser l'utilité pour l'époque. C'est vrai que on vit dans une époque où, sous prétexte de pédophilie, il y a une espèce de sacré, on touche pas aux enfants. Mais on vit quand même dans une époque où les enfants n'ont plus leur place. Où... Donc ça intéresse personne, et je crois qu'il y a une actualité des contes de Grimm dans la violence adulte et dans l'incompétence adulte à l'égard des enfants qui me touche profondément.
Oui. Alors, ce conte de Blanche-Neige, alors justement, vous reparlez de Bettelheim, donc qui ne peut pas s'empêcher de pas placer des problèmes oedipiens dans sa lecture de Blanche-Neige, et vous dites comment peut-on croire que Blanche-Neige sollicite la préférence de cet homme, donc son père qui est totalement absent du conte d'ailleurs.
Hein. Il est totalement absent.
Alors qu'accablée par la violence meurtrière de la reine, elle ne songe même pas à demander sa protection.
Alors ça c'est intéressant c'est parce que il y a quelque chose qui gêne à notre sensibilité moderne un petit peu influencée par le féminisme, on va se faire des ennemis, c'est que au fond la violence dans les contes c'est quand même majoritairement la violence des femmes sur les jeunes, hein. Mais alors évidemment hommes
sont... il y a le conte des deux frères.
Le conte des deux frères, on y reviendra.
Ce sont les pères, oui.
Mais
le père.
En fait à cette violence explicite des femmes correspond ce que j'appelle une incompétence des hommes. C'est-à-dire, en fait, comme vous dites bien, les hommes sont jamais là.
Oui, une impuissance aussi.
Une impuissance. Ils sont jamais là quand il faut. Et dans Blanche-Neige, c'est flagrant. Et dans bien d'autres contes, c'est flagrant. Bon, les pères violents sont en général des pères incestueux. On va le voir tout à l'heure avec Demoiselle Malène. Mais de toute façon, il y a une violence, j'allais dire, dissimulée des pères. C'est-à-dire, ils ne sont pas là comme il faut. Et ils ne sont pas là pour s'interposer entre l'enfant et sa mère. Et je laisse les auditeurs imaginer s'il y a matière à leçon pour l'époque moderne.
Bien sûr, oui. Alors, en l'occurrence, Blanche-Neige, c'est sa belle-mère. Sa mère disparaît. Alors, justement, là-dessus, vous revenez notamment sur des détails de traduction. On peut penser qu'elle est morte en couche, mais cette violence n'est pas présente. Cette violence-là, en tout cas, n'est pas présente dans la version des frères Grimm, qui dit simplement qu'elle est...
Oui, il y a une formulation allemande qui est très jolie. Hein, c'est « Et quand l'enfant fut né, la reine mourut ». Et ce « quand » est de signification problématique, c'est-à-dire qu'il est dit nulle part que c'est l'accouchement qui a causé la mort de la reine. En allemand, c'est une vie das Kind geboren war, c'est la conjonction vie qui est très ambiguë. Alors, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de versions, y compris dans les notes des Grimm, où le torsionnaire de Blanche-Neige, c'est bien sa mère. Hein. C'est-à-dire que le procédé de la belle-mère, il est assez utilisé dans le politiquement correct du merveilleux, c'est que quand on veut cacher les choses, on met une belle-mère là où initialement, dans les versions initiales, il y avait clairement une mère.
C'est ça.
Mais il est vrai aussi que dans la société de référence des contes, et les Grimm en parlent dans leur introduction, il y a énormément de remariages et d'enfants de plusieurs mariages, et les Grimm parlent explicitement des enfants de la nouvelle femme qui sont assis à table alors que les autres sont obligés de rester debout. Alors là encore, est-ce que notre époque avec les familles recomposées n'a rien à... n'a rien à méditer sur cette situation de violence à l'égard des enfants de plusieurs lits, on peut aussi y réfléchir.
Alors l'originalité de votre analyse de ce conte en particulier, Blanche-Neige, les contes de Grimm, je ne sais pas si on aura le temps de parler des autres, parce que ça vous permet de critiquer ce que vous appelez l'ahurissant contresens de Walt Disney. Vous faites finalement de Blanche-Neige le huitième nain. Expliquez-nous.
C'est ça. C'est-à-dire que au fond, Blanche-Neige, elle est empêchée d'être une femme. Elle est née sur une invocation,
une belle invocation de sa mère.
Qui est vraiment très très belle. C'est un jour, c'était au beau milieu de l'hiver et les flocons de neige tombaient du ciel comme du duvet. Et alors la reine mère, la mère va se couper le doigt et elle voit le sang qui tombe sur la neige et elle dit « Oh, puissais-je avoir une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire que le bois de ce cadre ?» Or noir, blanc, rouge, pour une femme, c'est le signe de la perfection dans le système de valeurs de l'époque. Et donc, cet enfant va naître sous le signe de la perfection féminine. Et puis, via cette belle-mère qui pourrait être sa mère, elle va être empêchée d'être une femme. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le texte allemand, et que Bettelheim ne voit pas, c'est qu'en allemand, à la différence du français, il y a l'usage du neutre. Et
oui,
Blanche-Neige, dans le conte, va être appelée Das Kind, Das Mädchen. Et ça n'est, c'est-à-dire, bon, quelque chose d'asexuel. Et les nains vont dire, on ne peut pas mettre cela dans la terre.
Quand elle aura croqué la pomme empoisonnée. Ouais.
Donc elle est désignée par le neutre. Et ça n'est que lorsque le prince va aller la reconnaître qu'enfin elle va devenir Die Königin, c'est-à-dire une femme, quoi. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Effectivement, je crois que... Alors, ce qui se passe, c'est que Blanche-Neige, empêchée d'être une femme, va devenir Das. Das, et elle arrive dans la maison des nains où, contrairement à ce que dit, à ce que montre Walt Disney, cette maison des nains, c'est pas du tout un taudis, etc. Tout était si propre, les lits sont bien faits, etc. C'est-à-dire que Blanche-Neige, elle a rien à apporter à ces nains-là parce que ils sont tout à fait aussi habiles qu'elle aux arts ménagers. C'est un milieu finalement asexué. Totalement asexué.
Ou dégenré, comme on dirait aujourd'hui.
Et Walt Disney a tort également d'inventer une sorte d'attraction des œillades, des petits nains, etc. à l'égard de Blanche-Neige. C'est très mignon cinématographiquement, mais c'est pas du tout la signification du conte, parce que finalement, Blanche-Neige, dans cette maison des petits nains, qui l'égale en tout ce qui pourrait faire sa spécificité féminine, Blanche-Neige accepte finalement de renoncer à son sexe, elle devient Das, elle devient Daskind, et elle met sa féminité en sommeil. Et finalement, sa mort dans ce cercueil de verre va figurer le sommeil de sa féminité, jusqu'à ce que, à la fin, un homme, par la force de son désir, vienne réveiller cette féminité.
Voilà. Alors, juste parce que vous dites, vous rappelez au passage, parce que évidemment cette marâtre, elle se comporte de manière épouvantable avec elle essaie à plusieurs reprises de la tuer, etc. Et vous, et ça c'est une chose qui s'applique également à tous les contes. Vous dites qu'une part de cette efficacité stylistique tient à un large usage de l'exagération, notamment de l'exagération du mal, quoi. Hein.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on voit bien les limites de la sensibilité littéraire de Bettelheim. C'est-à-dire qu'il ne voit pas du tout la fonction de renforcement de la réitération. Et puis, alors, il ne faut pas non plus oublier que la réitération, c'est, dans le texte écrit, l'écho d'une littérature orale. C'est-à-dire que le conteur, pour autant qu'on puisse le savoir, il est obligé d'utiliser des procédés de réitération pour accrocher l'attention de ses auditeurs et bien, ancrer leur compréhension du fil de l'histoire. Donc, voilà, des choses auxquelles Bettelheim dit, mais en fait, si la belle-mère voulait vraiment tuer sa fille, elle pouvait y réussir du premier coup. C'est une espèce de réification du conte qui est totalement aberrante sur un plan littéraire.
Alors, en conclusion, sur ce conte Blanche-Neige, vous indiquez, Marc Girard, que, en fait, la leçon du conte, son sens profond, c'est que les générations succèdent aux générations et que cette belle-mère qui voudrait être la plus belle de tout le territoire, ce qui est donc constamment démenti par son miroir qui lui dit le contraire, eh bien, c'est ça qu'elle refuse, c'est cette succession des générations.
Alors ça, là encore, revenons à l'époque moderne, c'est comme pour l'époque moderne, on le voit tout à fait dans notre pratique de psychothérapeute, c'est-à-dire on voit, et de plus en plus, je crois, des gens qui refusent la succession des générations, et finalement, une psychothérapie, c'est s'inscrire dans le transgénérationnel, c'est voir qu'il y a des grands-parents, des parents, des enfants, et s'inscrire dans le générationnel, c'est remettre une polarité au temps, c'est savoir qu'il y a le passé, l'actuel et l'avenir, et s'inscrire dans le générationnel, finalement, c'est méditer sur la mort. Mmh. Et je dis toujours, une psychothérapie, finalement, c'est une méditation sur la mort. Et il y a des gens qui, manifestement, ne sont pas capables de méditer sur la mort.
Alors, passons à ce très joli conte, je ne sais pas si on aura le temps d'en dire grand-chose, mais très joli conte, qui se trouve d'ailleurs être le plus long conte de l'œuvre donc des frères Grimm, Les deux frères, il s'intitule Les deux frères, ce sont deux frères jumeaux que rien ne distingue.
Deux frères jumeaux que rien ne distingue, et bon, je soupçonne quand même, sans être un spécialiste, je vous ai dit que malheureusement je n'étais pas germaniste, je suis pas un spécialiste de la biographie des Grimm, mais on sait quand même que Jacob et Wilhelm ont eu un lien, ils n'étaient pas jumeaux, mais ils ont eu un lien extrêmement fort toute leur vie, et donc je pense que ils se sont aussi raconté une histoire à eux. Donc finalement, ces deux enfants que rien ne distingue l'un de l'autre, ils vont être chassés par leur père parce que ils auront réussi à
manger
le foie de l'oiseau d'or,
voilà,
que voulait s'approprier l'oncle. Et alors, voilà, évidemment, en
l'oiseau fonction... d'or tiré par leur père.
Voilà, ouais, c'est ça. Et à manger le foie de l'oiseau d'or, bah, ça permet chaque matin de trouver une pièce d'or à son chevet. Donc l'oncle qui voulait s'approprier le privilège est absolument furieux. Et il arrive à persuader le père que tes enfants ont parti liés avec le malin. Et le père effrayé chasse ses enfants. Et donc ces deux enfants vont se retrouver dans la forêt, accueillis par un chasseur. Et là encore, c'est un petit peu le pendant de Blanche-Neige, on va se retrouver dans un monde totalement asexué. C'est-à-dire ce chasseur n'a pas de femme, on ne sait pas pourquoi.
Là c'est l'absence de femme.
Hein, l'absence c'est... de femme, ouais, tout à fait.
L'absence de mère.
Bon, et ils vont continuer comme ça, jusqu'au
alors,
moment...
Ce chasseur, il leur apprend plein de choses.
Il leur apprend à chasser.
À chasser, voilà.
Ce qui est dans les contes, une fonction... C'est un des modes d'acquérir la fonction virile, c'est la chasse ou la guerre.
Mmh.
Je suis pas militariste, mais dans les contes, la guerre, c'est être un homme.
Et alors, mais finalement, ce que vous remarquez, c'est que cette aptitude ne leur sera pas d'un grand usage, et ça vous permet de montrer que, en fait, ce monsieur, ce chasseur, qui se comporte très bien, contrairement à leur père, avec eux, eh bien, il n'est pas un substitut de la... La figure paternelle.
Il n'est pas un substitut de la figure
paternelle.
En tout cas,
un substitut, là aussi, sans effet.
Voilà, un substitut sans effet.
Voilà.
Parce que finalement, on se rend compte que tout ce qu'il va leur avoir légué, la chasse, l'art de la chasse, des fusils qui eussent été bien, bien utiles dans l'histoire, plus deux chiens, eh bien, ils vont jamais pouvoir s'en servir, notamment.
Les chiens, ils disparaissent.
Le cadet va se faire couper la tête pendant son sommeil. Bon, on imagine quand même que s'il avait eu la chance d'avoir le chien de son beau-père auprès de lui, il aurait pu s'épargner cette expérience extrêmement désagréable. Donc finalement, effectivement, ce chasseur, c'est ce que j'appelle, c'est pas un père, c'est pas un substitut paternel, c'est un lieu de survie élémentaire dans un monde qui est encore profondément asexué. Et la révélation va être lorsque, une fois les deux chasseurs séparés, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie, donc ils se séparent, le plus jeune va arriver...
Les deux frères, donc. Hein.
Les deux frères, mais qui ont été intronisés chasseurs accomplis, mais qui ne vont pas réussir à gagner leur vie comme chasseurs, ce qui est tout à fait extraordinaire.
C'est-à-dire qu'ils rencontrent une série d'animaux, lapin, un renard, et le lapin. Alors là aussi, des pères étranges.
Oui,
en échange de leur vie, leur proposent de tuer leurs enfants, leurs bébés.
C'est-à-dire à chaque fois, le père lapin dit « Gentil chasseur, ne me tue pas, je te donnerai deux petits ». Le lion dit « Gentil chasseur, ne me tue pas, je te donnerai deux lions ». Donc, ils vont se trouver chacun avec deux lions, deux ours, deux lapins, etc.
De
loups également, de renards. Bon, une espèce de suite d'animaux. Et alors, tout ça va commencer à chauffer lorsque le plus jeune arrive dans une ville tendue de draps noirs, et en fait c'est une ville où tous les ans on doit délivrer une jeune fille vierge au dragon. Et là on a utilisé toutes les filles vierges de la ville, et donc on en arrive à la dernière qui est la fille du roi. Drame, imagine bien. Donc là encore, on est dans la non-sexuation, c'est-à-dire que ce malheureux dragon, il ne sait se comporter avec des jeunes filles vierges qu'en les tuant. Hein. Bon, voilà. Et le garçon va réussir à tuer le dragon, mais justement sans faire le moins du monde usage des instruments ou du savoir-faire qu'il tient de son beau-père, le chasseur. Voilà. Il va trouver une épée miraculeuse, et c'est comme ça qu'il va réussir à délivrer la princesse.
Voilà. Alors là-dessus, il est obligé de se rendre dans la forêt pour retrouver, parce que dans un détail qu'on avait négligé au passage, c'est que le chasseur en question leur donne un couteau magique. Il leur dit, vous allez être obligé de vous séparer un jour ou l'autre. Si vous vous séparez, si vous plantez ce couteau dans un arbre, vous pourrez toujours avoir des nouvelles de l'un ou l'autre de votre frère. S'il est vivant, le manche sera brillant. Et le côté du manche qui correspond au frère sera brillant. S'il est mort, il sera rouillé. Et donc,
Alors, donc,
le prince, on va dire, le jeune prince se rend dans la forêt, et là, c'est là qu'effectivement il se fait endormir et décapiter.
Mais, non, c'est-à-dire c'est dans un premier temps sur la montagne. Dès qu'il a tué le dragon, il va s'endormir, il est fatigué, il est à côté de la princesse, et pendant son sommeil, il va se faire couper la tête par le sénéchal du roi, etc., qui va s'approprier la victoire.
Oui, c'est ça.
Et qui va s'approprier la princesse. Alors la princesse est obligée de prêter serment qu'elle ne dira pas la vérité. Et elle réussit juste à retarder le mariage d'un an. Alors, grâce à beaucoup de magie, le cadet va être ramené à la vie par ses animaux. Et alors, il tombe dans une... je vais utiliser un mot un petit peu exagéré, mais il tombe dans une espèce de dépression. Il ne comprend pas pourquoi il se retrouve tout seul.
Il pense que c'est la reine qui a... la fille du roi, la princesse qui a voulu sa mort.
Et il n'ose absolument pas se rendre à la cour du roi pour dire, en fait, c'est moi qui... Parce qu'il en a toutes les preuves. Et alors,
c'est moi qui ai tué le dragon.
Ce qui est très émouvant, c'est qu'en fait, c'est via un très très long jeu qui contribue à faire de ce conte le plus long du recueil, c'est que c'est la princesse qui va lui envoyer tous les signes de connivence dont il a besoin pour reprendre courage et venir en fait comme le patron en disant c'est moi et elle est à moi. Alors c'est le symétrique très émouvant finalement de Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est une femme qui n'arrive pas à être femme et qui va être réveillée à la féminité par le regard d'un homme. Et là, c'est un garçon qui a donné toutes les preuves de sa virilité, mais j'allais dire qu'il l'a perdue. Hein, il s'est fait couper les couilles, en fait, si vous me pardonnez l'expression, par le sénéchal. Et finalement, c'est le désir d'une femme pour lui qui va le ramener, finalement, sur les chemins de la virilité.
Alors, on peut raconter quand même la fin, la très belle chute de l'histoire.
Alors, la fin, donc, il va... de nouveau se faire piéger par une femme, une vieille sorcière, en allant chasser dans la forêt. Et là, il va se faire pétrifié, non pas couper la tête, et c'est là que son frère aîné va venir parce qu'il a vu le couteau, c'est très joli, hein, très très poétique, il a vu le couteau à moitié rouillé. Donc le frère va user d'un stratagème, il va se faire passer, parce que c'est le jumeau exact du jeune, pour le prince, et il va dormir à côté de la princesse. Mais de façon très fraternelle, il va veiller chaque nuit à ce qu'il y ait une épée entre la princesse et lui.
C'est ça la chute d'ailleurs.
Et la princesse
on l'a révélé avant
pas.
Là. Ouais.
Il va réussir à délivrer son frère et en rentrant au château, il lui explique j'ai été obligé de me faire passer pour toi. Je me suis même retrouvé dans le lit de la princesse. Alors à ce moment-là, le cadet à qui il vient de sauver la vie, fou de rage, sort son épée et le tue, le décapite. Ouais, alors ensuite, va y avoir la réparation, c'est-à-dire il va se rendre compte que il pouvait pas faire ça, il va faire utiliser de nouveau la racine magique pour ranimer son frère. Et en arrivant finalement au château, il va proposer à son frère d'aller jusqu'au bout du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont être habillés exactement pareil, et il y a le moment de grand suspense, et en dépit du fait qu'ils sont strictement identiques, comme au début du conte, indissociable, la reine, la princesse, va aller d'emblée voir son mari, son préféré. Donc finalement, le conte, le happy ending du conte, c'est que enfin, il a réussi à être inconfondable.
Voilà, c'est le titre que vous avez donné à ce chapitre dans votre livre, Marc Girard, l'inconfondable. Et le conte se conclut donc le frère... le mari légitime de la princesse lui demande pourquoi donc tous ces derniers temps. C'est la princesse qui lui demande, et c'est là qu'il comprend que son frère ne l'a pas trompé. La princesse lui demande pourquoi tous ces derniers temps il avait éprouvé le singulier besoin de laisser entre eux une épée à double tranchant durant la nuit.
Et à ce moment-là, ça fait tilt. Et alors, il a déjà pardonné à son frère le fait d'avoir dormi, mais il ne savait pas qu'en plus de tout, son frère s'était gardé de tout contact physique avec son épouse.
Alors, conclut magnifiquement le conte, il comprit combien son frère avait été fidèle.
Voilà.
Alors, conclut magnifiquement le conte, c'est vous qui le dites, mais c'est vrai que la chute est très belle. Et alors là, il y a aussi de nouveau ce thème développé, on va conclure là-dessus, de l'incompétence parentale.
l'incompétence parentale, qui est, bon, on n'a pas eu le temps d'aborder les moments de violence paternelle, qui est en général une violence incestueuse.
Puisque c'est leur père qui les chasse.
Là, c'est leur père qui les chasse, simplement parce qu'il a été impressionné par une dénonciation, si j'ose dire. Mais oui, effectivement, le héros porte durant le conte le poids du mal que l'incompétence de ses parents a fait sur lui.
Oui. Marc Girard, on aura réussi qu'à donner une petite idée de toute la richesse de signification contenue, la richesse symbolique aussi contenue dans ces contes. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, Les Contes de Grimm, lecture psychanalytique, c'est publié par Imago.
Merci à vous.
Demain, je m'entretiendrai avec Frédéric Rémy de son Histoire des pôles, mythe et réalité polaire au XVIIe et XVIIIe siècle, une publication des éditions Desjonquères. Et Toufik Hakem, en première partie, reçoit Henri Chapier pour Il est interdit de vieillir chez Publibook. Ça, c'est aussi un thème propre au conte, hein, au conte de fées. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier. À la technique aujourd'hui, Yanis Djoudad, une réalisation de Dominique Briffaut. Vous écoutez France Culture. Il est 16h.